Vous êtes sur Studio ZEF à Blois ou Radio Béton à Tours et c'est l'heure de Feuilles Vives, l'émission de reportage entre ville et campagne. Dixième émission de Feuilles Vives après notre visite chez l'épicier Thomas Grappi pour notre toute première émission. Retour sur les circuits courts avec La Ruche qui dit oui. Une start-up qui mêle économie numérique et circuits courts, ubérisation et économie sociale et solidaire. Le but, mettre en relation producteurs et consommateurs avec, pour seuls intermédiaires, un responsable de ruche auto-entrepreneur et une plateforme en ligne. Présentation par Caroline Vildard, responsable de La Ruche d'Onzain depuis 3 ans.
La Ruche qui dit oui, c'est un système qui met en relation les producteurs locaux et les consommateurs locaux également, à un même endroit, soutenu par une plateforme internet où on peut justement voir les produits qui existent, les choisir un petit peu comme dans un drive et puis venir chercher la commande le jour de la distribution. Voilà, c'est un petit peu un drive marché, on va dire. Parce que les producteurs qu'on retrouve à La Ruche sont des producteurs qu'on pourrait tout à fait retrouver sur le marché. Ils sont, ils ont leur exploitation à moins de 30 km d'ici. Voilà, ce sont des exploitations qu'on est allé visiter auparavant pour vérifier que ça répondait bien aussi à nos critères, à nos attentes individuelles. En tout cas, ce que les producteurs qui sont là, ce sont ceux que j'ai choisis en fonction de moi aussi, mes attentes en termes de qualité de produits, mais aussi de respect de l'environnement, on va dire. Donc à chaque fois, j'ai été visiter les exploitations et ensuite j'ai proposé aux producteurs si effectivement il y avait un même état d'esprit de venir rejoindre La Ruche. Voilà. Donc tous les producteurs ne sont pas forcément bio, puisque ce n'est pas notre critère principal. Le critère principal, c'est, je dirais, le bon sens, avec des produits fermiers et qui sont bien travaillés, en fait. Proche aussi, pour éviter l'impact écologique qu'il peut y avoir dans le transport, par exemple. Voilà. Le prix est laissé complètement libre aux producteurs, ce qui n'est pas le cas dans d'autres structures comme la grande distribution. Mais par contre, pour l'organisation de La Ruche Mama, et faire vivre, on va dire, La Ruche Mama, c'est 8,5% de la vente qui sont prélevés donc pour eux et 8,5% pour le responsable de ruche. Le travail, c'est donc d'organiser la distribution le jour J. Mais pour ça, ça veut dire plein de... C'est comme un peu un jour, quand on organise un jour de fête, ça veut dire qu'il y a quand même toute une intendance derrière, une coordination. Et donc, c'est ça aussi. C'est donc trouver qui va approvisionner, comment... qui ne vient pas, tel autre qui a tel problème, il faut pallier. Et puis c'est aussi de communiquer dans son village ou dans sa ville auprès de gens qui pourraient être intéressés par cette volonté de consommer de façon un peu nouvelle, en fait.
Et donc, s'il y a des conditions posées par cette entreprise mère pour constituer une ruche, par exemple ?
Non, après la condition, elle est surtout dans le choix qu'on fait des producteurs. C'est-à-dire que évidemment, il n'est pas question de faire venir un producteur qui serait dans de la production intensive. Par exemple, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est plus de soutenir ceux qui vont démarrer ou ceux qui sont des petits producteurs, ceux qui ont besoin, du soutien de la société, du soutien citoyen pour vivre, parce que la plupart des producteurs sont à moins de 800, mais je crois que c'est 80% qui sont à moins de 350 euros par mois. Et donc, c'est vraiment, quand je parlais de tout à l'heure de valeur éthique, c'est ça aussi, c'est-à-dire de faire le choix quand on consomme. De savoir qui on va soutenir derrière. Et donc voilà, c'est géré, c'est la seule chose à respecter que la ruche mama nous fait respecter en tout cas.
D'accord, parce que moi en lisant un petit peu les statuts et les règlements, j'avais plus l'impression que cette partie éthique, elle était finalement laissée à l'appréciation du responsable de ruche, et que les seules conditions, on va dire, légales d'ouverture d'une ruche, c'était plus des questions de marché sur place, de nombre de clients, ou même que la ruche mama se laissait l'opportunité de fermer une ruche s'il y avait un manque de clients ou de membres à un moment donné. Moi, j'avais pas vu dans ces conditions-là. C'était plutôt laissé au choix éthique du responsable de ruche. Quoi.
D'accord. Je dirais que si on devient responsable de ruche, vu la quantité de travail que ça représente, c'est pas pour faire rentrer n'importe qui. C'est quand même bien dans une idée. C'est bien soutenu par des valeurs en fait derrière. Donc en règle générale, et puis on a quand même suffisamment d'informations. Par exemple, quand on voit un producteur, on sait par exemple comment il soigne ses animaux. Parce que là, par exemple, il y en a un qui va rentrer, il soigne ses bœufs avec, ses vaches et ses bœufs avec des huiles essentielles. Enfin, il y a l'utilisation. Enfin, tout ça, on a le détail en fait. Pareil, d'où viennent les aliments des bêtes, etc. Enfin, tout ça, on a l'information. Donc, en règle générale, on ne va pas aller chercher quelqu'un qui roule gros, on va dire, et qui se moque un peu de toutes ces questions-là. Puis après, il y a tout le soutien aussi des producteurs qui, eux, connaissent et mettent en alerte. Hein. Ils se connaissent, c'est vraiment un réseau. Hein. Le milieu agricole, c'est quand même un milieu qui se connaît. Et donc, pour qu'une ruche fonctionne, en plus, il faut que l'équipe de producteurs soit bonne et soit solidaire aussi. Donc rapidement, s'il y en a un qui est passé entre les mailles du filet, on va dire, on va le savoir en fait. Et puis tout simplement, c'est aussi la qualité de ce qu'on a dans nos assiettes. Si on voit le morceau de viande qui se réduit parce qu'il y a plein de flotte ou des choses comme ça, très rapidement, on va voir que bon, il y a peut-être un problème. Et puis les adhérents ne viendront plus parce qu'ils ne s'y retrouveront pas. Donc tout ça, c'est une émulsion conjointe. Hein.
Alors, voilà. Émulsion oratoire, transapnéique d'hippocampe fou.
Je ne suis qu'un piètre pitre dérisoire, même les vilains spectres rient de mes histoires, mais j'empiète vite sur ton territoire, ouais. En fait, j'ai pris tes pulsions les plus noires. T'as le sang chaud, t'es comme Popeye, mais sans les épinards. T'es moins crédible qu'un manchot faisant de l'air guitare. Et quand tu tises de la mer pinard, t'es tendu, finis par renifler les strings de ta mère. Vise la merde, pourquoi tu parles à ton chien aphasique? Tu fais de la peine comme un marathonien asthmatique. T'as pas trop tes parties, t'es qu'un bolos au pied d'argile. Et si tout ton corps s'éparpille, je t'enverrai au réparpip. Tu la ramènes pas mal, mais t'es qu'un mec banal. Tu rêves de Claire Chazal préparant ton steak charal. Viens dans ma vieille cabane, livrer une belle bataille contre un austère chaman pratiquant le sexe nasal. J'espère que tu percutes, tu passes inaperçu. Même quand tu hurles comme une truie dans les rues, tu cares nu. Tout ce que tu dis est juste superflu. Remplace ton stick à lèvres par un tube de superglu. Des images putrides fusent quand je rumine juste de la pure wit surgissant du plus bismure de ma sublimus. Mes points de vue se multiplient, je deviens cubistus de cultissime. Ces mutations oratoires à déguster sans bavoir. Mes buts, c'est mon dada, moi je scute un monde à part. J'épluche les légumes à l'aide de mon vieux rasoir. Sous la plante des pieds, j'ai des plumes, tu peux te rasseoir. Je ne suis qu'un piètre pitre dérisoire, même les vilains spectres rient de mes histoires. Mais j'empiète vite sur ton territoire, ouais. En fait, j'épile tes pulsions les plus noires. Je ne suis qu'un piètre pitre dérisoire, même les vilains spectres rient de mes histoires. Mais j'empiète vite sur ton territoire, ouais. En fait, j'épile tes pulsions les plus noires. Ouais. Je ne suis qu'un piètre pitre dérisoire, même les vilains spectres rient de mes histoires. Mais j'empiète vite sur ton territoire, ouais. En fait, j'épile tes pulsions les plus noires.
Je suis très dark ce soir.
suite de votre émission de Feuilles Vives, on vient d'entendre Émulsion Oratoire du rappeur français Hippocampe Fou. Le mois dernier, Caroline ouvrait une nouvelle ruche au lycée La Providence de Blois. Chaque responsable peut être à la tête de 3 ruches au maximum. Cette fois, elle s'associe avec Françoise Adam. Cette ancienne enseignante du lycée travaille désormais dans l'exploitation de son mari, producteur de pommes de terre à Mulsan, village situé une 10 kilomètres au nord de Blois. Aujourd'hui, environ 1/10 de ces pommes de terre sont vendues par l'intermédiaire de la ruche, le reste en circuit long. Faciliter les échanges entre producteurs, communiquer auprès du public, assurer un revenu supplémentaire à son statut très précaire d'aide familiale agricole. Pour Françoise, la ruche n'a que des avantages.
Participer à une ruche, pour moi, ça a été très important parce qu'en 2014, on a eu un gros souci avec nos pommes de terre et c'est comme ça que je suis arrivée au circuit court, à l'entrée dans une ruche. Et là, j'ai découvert un nouveau moyen de communiquer et de faire connaître ses produits. Ce n'est pas tant la vente que l'on va faire, parce que finalement, ça ne représente pas forcément une grosse partie de ce que vous produisez, mais l'intérêt, c'est avant tout de pouvoir échanger avec les abeilles, puisque c'est comme ça qu'on les appelle ici dans une ruche, et de faire connaître ses produits, de pouvoir prodiguer des conseils. Et à la ruche d'Onzain, dont s'occupe Caroline, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté. Et j'ai découvert une nouvelle famille, c'est la famille des producteurs. Ça, c'est un grand intérêt parce qu'on se sent beaucoup moins seul.
Ok, est-ce que vous pouvez me dire quel problème vous avez eu et en quoi rentrer dans une ruche, ça vous a permis de le résoudre en partie, quoi?
Eh bien, disons que ce sont des soucis de grande distribution ou quand vous avez un contrat, il suffit que la peau ne soit pas suffisamment belle pour être vendue lavée. Et du coup, ben, on dénonce votre contrat et puis on vous dit votre pomme de terre ne vaut rien alors que elle est excellente à manger. Donc moi je prône vraiment la valeur du produit, le goût du produit. Une pomme de terre non lavée se conserve beaucoup mieux et c'est pas ce qui se passe dans les grandes surfaces. Et ça, c'est ce que j'essaye de passer autour de moi. C'est avant tout l'échange et la communication. Voilà, c'est un réseau qui permet du relationnel et avant tout.
La vente à la ferme, les marchés,
oui,
les AMAP, ça permet du relationnel.
Bien sûr, j'en fais aussi. Bien sûr que j'ai de la vente à la ferme. Je fais aussi des marchés de producteurs, des choses comme ça. Mais bon, la ruche qui dit oui, c'est une aide peut-être pour communiquer avec des populations qui sont peut-être en manque de temps et qui vont utiliser Internet assez facilement, mais qui auront envie quand même de rencontrer des producteurs. Et la ruche Mama nous aide grâce à son logiciel qui nous permet d'avoir cette communication.
Anne-Sophie Castet est maraîchère à la Vacquerie à Blois. Elle écoule également la majorité de sa production auprès de grossistes, mais insiste sur l'importance de garder un lien avec le consommateur.
Nous, la majorité de notre production part plutôt en vente en semi-gros. On a très peu de contact avec les clients et on avait envie d'avoir des dispositifs qui nous permettent d'avoir des contacts avec les gens. Et la ruche, qui est un dispositif collectif, répondait très très bien à nos attentes en fait. Parce que quand vous produisez des choses que les gens mangent, vous aimez bien avoir des retours sur les produits, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ça vous permet d'affiner, d'ajuster et d'être même plus performant après sur les produits que vous envoyez en semi-gros.
C'est bien. Oui, c'est un test. Donc allez-y, goûtez. Hein. Pour moi, c'est un peu trop gras.
C'est trop gras.
Ouais. Mais le but, ça serait plutôt de le décliner en chorizo et en saucisson sec. Après, on va voir ce que ça donne.
D'accord, donc on prend le gras.
Mais c'est grand, hein.
Ah, c'est que le soir, hein. Au début.
C'est très bien
assaisonné. C'est à la fin qui nous sent, c'est bon.
Oui.
C'est bon au début.
T'as l'impression de manger une saucisse.
Ouais.
Ah, c'est bizarre.
Bah, il y a le côté psychologique, il y a la forme de la saucisse et tout ça.
Quoi.
C'est
si vrai que
le poisson, on sort à la fin.
On sort à la fin, le poisson.
Ah,
c'est
aussi dur.
Oui, c'est aussi dur.
Hein?
Ah si, parce que là je les ai pas encore dégustés là. Mais c'était juste pour voir.
Ah, c'est les poissons de
ouais, c'est le plus. Super, hein. Mais c'est vraiment parce que la chair en elle-même, t'as l'impression
que c'est
vraiment. C'est impressionnant. Sauf que c'est un peu plus grand.
C'est pas mal ton idée.
C'est pas mal?
Ah ouais, je trouve, ouais. Est-ce que ça se mange? Qu'est-ce qu'on en fait du silure? On en trouve sur les étals, franchement.
Bah lui, il faisait en fumée comme ça.
Et il a fait fumer
des acras aussi. Et ses acras sont bons aussi.
Ah oui. Ah oui, les acras, ouais, tu dois rien voir, tu dois pas t'en rendre compte.
Ses acras sont bons.
Ouais, c'est pas mal ton idée de fumage.
Bah, on va essayer de voir là pour le mettre sur la route. On n'a pas trouvé le format encore, comment on allait travailler encore. Mmh. Pour l'instant, le but c'est essayer de sortir des bons produits. Quoi.
Ah, très bon, très très bon. Vraiment, c'est une très bonne idée.
L'autre avantage pour nous maraîchers, c'est qu'on récolte sur commande. On a, par rapport par exemple à quelqu'un qui fait de la vente au détail sur la ferme ou qui fait de la vente sur les marchés, il peut parfois repartir avec des produits. S'il est juste en fin de cycle de commercialisation, les produits, il n'est pas facile de les placer. Nous, en fait, on récolte à la demande. Ce qui fait qu'on a sur ce dispositif-là et sur les autres dispositifs qu'on a d'ailleurs, aucune perte de produits qui ne trouveraient pas acquéreur. Ça, c'est un gros avantage. Après, le fait aussi d'être en collectif avec des collègues, de pouvoir voir des producteurs de miel, des producteurs de viande, des artisans, ça enrichit les échanges. Et les inconvénients, alors l'inconvénient, c'est que, évidemment, ça fait beaucoup de conditionnements et de petites choses à préparer pour des systèmes qui font à la fois du semi-gros et ces systèmes-là, ça nécessite quelques petites adaptations dans l'entreprise pour pouvoir faire un petit peu de conditionnement et gérer des petits volumes.
Et vous, comment vous vous êtes adapté à cette nouvelle...
On a réorganisé le hangar, on a mis des tables, des balances, on a acheté des emballages, on s'est organisé pour pouvoir traiter du petit volume.
Ouais, 50...
Bonjour.
Ouais, 52 fourmis vertes, on en a... Ouais.
Alors, 57. Vous avez la fourmi verte.
Ouais.
Attention, c'est parti. Alors, aubergine rose. Je les ai vus par là. Tac. Ah, ça c'est beau.
Merci. C'est beau, quoi.
Ouais.
Bon, si c'est bon, mais c'est beau.
C'est super beau. Ça a le goût de champignon un peu.
C'est vrai?
Oui, c'est une aubergine qui n'a pas le goût classique d'aubergine.
Ah, bah oui, c'est une aubergine, c'est un peu spécial quand même. Faut aimer. Alors, hein.
Ouais, l'aubergine violette, elle est un peu acide. Hein,
ouais.
C'est un goût fort.
Ouais, c'est un goût
là,
fort.
Celle-là, elle est très très douce.
Et ben, bah, je vais goûter parce que l'autre, j'ai du mal. Et là, ouais.
Ouais, bah, vous allez voir.
Bah, super.
Goûtez parce que vous allez voir, vous allez être surpris.
Est-ce que ça a modifié votre offre de produits? Par exemple, là, je vois une aubergine rose, on se dit, quand on surfe sur Internet et qu'on cherche les légumes qu'on va acheter, voir une aubergine rose, que ça attire l'œil, quoi. Ouais. Est-ce que ça a influencé votre...
Alors, ça influence, mais on garde quand même aussi les pieds sur terre, c'est-à-dire que moi, je vais faire des produits où je sais que je ne vais pas avoir trop de problèmes de culture, donc je vais chercher quelques nouveautés et des produits basiques. Alors, il faut savoir quand même que beaucoup de consommateurs apprécient particulièrement les produits connus et ils vont s'intéresser à une ou deux ou trois nouveautés. Mais pour moi, on ne peut pas baser un système que sur la nouveauté. Il faut avoir à la fois la gamme classique et puis quelques trucs un peu intéressants qui ne seront pas les mêmes chez moi que chez Fanny, que chez d'autres producteurs. Alors nous, c'est un choix, on ne souhaite pas faire plus de deux ruches. Donc on fait celle-là et la ruche de Blois. Alors d'abord parce que c'est pas notre cœur de métier, la vente vraiment directe. Et puis ensuite parce qu'il faut aussi de la place pour tout le monde. Je trouve que c'est des systèmes qui répondent très bien à des entreprises qui s'installent, à des entreprises qui produisent du petit volume. Ça crée de la valeur ajoutée sur le conditionnement et sur la commercialisation. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être partout. Je crois qu'il y a un certain nombre de consommateurs qui aiment voir les producteurs, mais qui aiment aussi être assez efficaces. Du coup, ils précommandent. Tout est prêt. Ils ont le choix. Soit on peut discuter, soit ils prennent leur panier parce qu'à ce moment-là, ils sont pressés. Donc il y a vraiment une catégorie de consommateurs auxquels ce système de ruche répond bien. Et ils ont envie aussi de travailler en circuit court. Et c'est un des modes de circuit court. Voilà. Après, il y a les AMAP qui correspondent à d'autres catégories de consommateurs. Les épiceries qui livrent directement à domicile, tout pareil. La vente à la ferme, voilà. Ça permet de répondre au maximum de gens. Et puis, à un moment donné de l'existence, les personnes vont changer de système parce qu'elles ont d'autres contraintes. Et le fait qu'il y ait de la diversité dans les systèmes de circuits courts, je trouve ça super.
Des circuits courts, des produits de qualité, une plateforme de commande en ligne et un service de facturation qui fonctionne comme une horloge, du producteur au client en passant par le responsable, tout le monde semble ravi des possibilités offertes par la ruche qui dit oui. mais plusieurs indices alertent l'observateur averti. Les imprécisions d'abord. En début de reportage, Caroline évoque des exploitations situées à moins de 30 km de sa ruche. Dans le cas d'Onzin, le chiffre indiqué est de 30 km en moyenne, avec des pointes jusqu'à 60 km pour certains producteurs. Après vérification, la moyenne est en fait plus proche des 40 km. Pour embellir ces chiffres, le site calcule les distances à vol d'oiseau et non le trajet qui devra être effectivement parcouru par le producteur. S'ajoutent à cela les formules vagues, sinon creuses, comme agriculture raisonnée ou produits fermiers. Et enfin, une entreprise du numérique, encore une, qui fait son beurre grâce au travail d'auto-entrepreneurs. Derrière une communication bien maîtrisée, quelle pratique cache la ruche qui dit oui ? On y revient après un petit hip-hop West Coast, Hive, par Earl Sweatshirt, extrait de son premier album Doris, sorti en 2013. Promise hair run, I put my fist up after I get my dick sucked. Quick buck, maybe a gold chain. With that fucking flow, the sister so belittles men. They tentatively tend to turn and go when I am finished. Stone cold, hardly fucking with these niggas. Nigga, listen, the description doesn't fit. If not a synonym or menace, then forget it. Intern, these critics and interns admitted this shit spitted. Just burn like six furnaces, ridded up, fixed. Learning in digits and simultaneously dispelling one trick pony miss. Isn't he? One adolescent fucking six nigga energy and cross. Falling down facts like a rich nigga centipede. Crack ceramic and slap a hand out of cash account. Stamping, shouting, thrashing. These niggas done let the cracking out. Crack-a-lacking like snap crackle. Popping your ammo off. Hide your face and throw your flannels off. Sweatshirt, nigga. 87 rooftop Bronson. Whipping hoop these trying boots. Raw chronic. Brutus in that booth, double scoop, hawk, vomit up, sub, rockin' thud, knockin' niggas' teeth loose. Bruh, I don't fuck with no cops. Rollin' with that flow swan, catch me over stove top. Rappin' to that coke rock, passionless and old jaw clothing with them doors wide open, dim the flow, lights focus. Like it's nothing, cause it's nothing, bitch. From a city that's recession hit, stressed niggas can flex metal with pedal to rake pennies in. Desolate testaments trying to stay Jekyllish, but most niggas hide and Brenda just stay pregnant. Breaking news, that's less important when the Lakers lose. It's lead in that baby food, hairs trying to make it through. Fishnetted legs for them eyes that she catered to. Ride dirty is the fucking sky that you praying to. So here I sit, eye in a pyramid. God spit it like it's true serum in that beer and then disappear again, reappear, bearded on top of a leer, steering it into the kid's ear again. Provider of the backdrop music for the crack rock user and the mascot, Earl. Raw than a skin kneecap on a black top, salivary glands, lighter fluid for the matchbox striking. Wait, wait, who the fuck you badder than? Boy, oh boy, I'm bad as burnt. Poyo off the grilling shit, spitter of the little Nick. Nimble Rick rolling bitch niggas pick. Little piff blower, plus I pillage shit. 87 rooftop Bronson, whipping hoop these trying boots. Raw chronic. Brutus in that booth, double scoop. Hawk vomit up, sub rocking thud, knocking niggas' teeth loose. Bruh, I don't fuck with no cops. Rolling with that flow swan, catch me over stove top. Rapping to that coke rock, passionless and old jaw clothing with them doors wide open. Dim the flow, lights focus. Like it's nothing, cause it's nothing.
All that tough talk, bruh, we know you niggas ain't about shit. Come around, we gun them down, bodies piled, Auschwitz. Bulletproof outfits, weapons concealed. I'm ready to kill, so tested all my weapons is real. Selling this, couldn't tell them what the recipe is. Got them wishing that they never gave these weapons to kids. Cheers, send chills up spines of fat bitches at the shows, throwing out sandwiches. Niggas get it how they live, and I live for money. Other words, I'm getting money. Little boy told me when it's time to ride, they'll send it for me. Ain't nobody scaring me, niggas ain't prepared for heat. Tools hit like pool sticks, the way I cue shit. If this was 88, I would've signed a ruthless 9-4. Would've had them walking down death row. First is when the best go, haters what the rest do. Voice inside my head told me wet them if they test you. So it's raging water season, that yamper big as Larry Johnson. Leave your mama seedless, everybody hard until it's only God they seeing. kitten soft, but in they songs be trapping hard as Jeezy. I don't believe it, but to each his own. I ain't tripping long as I can reach the chrome. Heat your home like Southern California gas. Police pass, tell them free Smalls off palm with the heat drawn, strapped up. Long as the chief of police armed, raised where the beast are. North of the beach, a couple streets past Baby J. Bony niggas spraying K's. Ruger with the pork face, Jewish for the court case. Here to save you niggas from the sorbet. Cold chain.
Like it's nothing, cause it's nothing, bitch.
Derrière La Ruche qui dit oui, la société Equanom, une start-up transnationale qui emploie 130 personnes et qui s'est étendue en 6 ans d'existence à toute l'Europe de l'Ouest. Sur le modèle d'Uber, l'essentiel de la responsabilité juridique et financière repose sur une armée d'auto-entrepreneurs. Ce sont également ces derniers qui choisissent les producteurs et artisans dans un rayon de 250 km autour de leur ruche, mais sans aucune autre contrainte de la part de la maison mère, communément appelée ruche mama. Aller chercher des produits de qualité, des petits producteurs, rejeter l'agriculture intensive, tout cela relève entièrement du responsable de ruche, mais n'entre pas du tout dans les règlements de la ruche qui dit oui. La société Equanom ne se réserve le droit que de fermer une ruche ou de reporter son ouverture si le nombre de membres ou de commandes est insuffisant. Le slogan « Mangez mieux, mangez juste » est répété à l'envi dans les chartes et supports publicitaires, mais disparaît des statuts légaux de l'entreprise où seule subsiste la limite de 250 km. L'argument de Caroline, exposé en début de ce reportage, est le suivant. Vu les faibles revenus dégagés par les responsables de ruches au regard du temps investi, ces derniers ne sont de toute façon pas intéressés par l'appât du gain, mais bien par la valorisation de produits de qualité et de petits producteurs. À partir de là, la vigilance du responsable, des clients et des autres producteurs permet d'écarter toute exploitation ne répondant pas aux critères, certes flous et mouvants, des différentes ruches. Mais l'argument se retourne de lui-même. Le travail du responsable de ruche, s'il ne suffit pas à lui dégager un revenu décent, suffit en revanche à faire vivre une entreprise, ses employés, à financer son développement et à verser des dividendes à ses actionnaires. Parmi ceux-ci, on retrouve des pointures de l'entrepreneuriat numérique et des fonds d'investissement plus ou moins engagés dans l'économie sociale et solidaire. Alors, et pour finir, que penser de la ruche qui dit oui ? Abeilles ouvrières du circuit court et du lien producteur-consommateur, ou bien frelons qui surfent sur l'emploi précaire et le concept des AMAP pour remplir leur ventre. Comme d'habitude, communication corporative et raccourcis protestataires nous éloignent tous deux de la vérité. Le système des ruches permet sans doute à bon nombre de citoyens d'accéder aux produits et d'entrer en contact avec les producteurs de leur territoire, tout en restant dans le cadre d'une relation économique classique. On commande, on paye, on reçoit. Les AMAP, moins onéreuses, demandent un changement dans les habitudes de consommation que peu sont prêts à adopter. On ne sait pas ce qu'on achète et on doit adapter son alimentation à ce que le producteur est capable de produire, non à ses seules envies. De plus, nombre d'AMAP fonctionnent comme des groupements d'achat déguisés, peu solidaires du paysan qui les fournit. Après tout, si producteurs, consommateurs et responsables de ruches sont satisfaits du système, pourquoi douter de son bien fondé ? Avec des critères de choix de producteurs pour le moins flous et l'utilisation de formes d'emploi précaires, il serait abusif de faire de la ruche qui dit oui l'acteur d'une révolution des pratiques de production et de consommation. Mais toute initiative contribuant à renouer le lien perdu entre les habitants du territoire et ses agriculteurs est un pas de plus vers une société plus saine. Retrouvez cet épisode et toute sa doc dans la rubrique Feuilles vives du site studiozef.fr. Bon week-end et à bientôt.
Quelle belle vallée,
avec ses fermes et ses fermiers,
avec ses graines et ses greniers.
Bonté. Quelle belle vallée, avec ses cucurbitacées,
avec ses cultures labourées.
Le ciel fond
tout en larmes à chaque coup de feu d'une arme.
Les charrues,
les chariots,
les chenus et les chevaux tombent en rade. Quelle salade à chaque coup de claironnade.